Je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu, au chapitre 19. Nous lirons les versets de 16 à 22. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » « Auquel ? » demanda-t-il. Jésus répondit « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore ?»« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Que l'Éternel bénisse sa parole.
Bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on me connaît en coup de vent, parce que je suis pas souvent ici, étant par Montzévaux, mais en effet on se connaît quand même un peu plus depuis le temps que nous sommes ensemble pour louer le Seigneur. Lorsque j'ai fait ma formation conseiller conjugal et familial, il y avait un stage qui était obligatoire, qui était un stage dans un centre d'IVG. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne pense pas, interruption volontaire de grossesse. Alors pour un chrétien, ce n'est pas simple, mais pour un pasteur, encore moins. Donc, étant obligatoire, j'y vais. Et les stages sont toujours donc avec un conseiller conjugal, celui qui est officiel et qui accueille les mères ou les futures mères pour un entretien préalable avant l'acte crucial de l'IVG. C'est un acte qui n'est pas anodin, c'est un acte qui bouleverse les passions. C'est un acte qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Et c'est un acte qui est très difficile pour nous chrétiens à mettre en place. Mais c'est un acte qui est pas simple non plus pour les personnes qui doivent le faire. Et je n'ai aucune condamnation contre ces personnes. Le choix qui est fait est le leur. Un conseiller conjugal accueille ce choix et l'aide. Mes pensées éthiques sont une chose, la réalité des faits en est une autre. Et deux expériences me viennent à l'esprit. La première, le docteur qui réalise ces IVG me dit: est-ce que vous voulez assister à un IVG ? Alors ça, par contre, c'est pas obligatoire. Je me dis, quand même, il y a des limites à là. Et puis, en pré-réflexion et en discutant avec la conseillère conjugale qui supervisait mon stage, j'y suis allé. C'est un docteur très, très ouvert, très au clair sur la situation, très, très simple. Et alors, l'acte se fait toujours devant un écran de télévision parce qu'il faut voir l'acte se faire. Il faut que le docteur voie ce qui se passe. Et donc, moi, je voyais. Et je vous passe les détails. Pas besoin forcément de tout dire. C'est quelque chose de très particulier de voir un fœtus aspiré par un tube. Et le docteur se retourne et me dit: Vous voyez peut-être maintenant pourquoi nous, docteurs, même ceux qui pratiquent l'acte, n'ont pas envie de repousser les nombres de semaines pour accepter l'IVG. Et j'ai eu beaucoup de respect pour ce docteur parce qu'il a fait un acte qui n'est pas forcément simple pour lui, auquel il veut bien soulager les mères ou les futures mères ou les ex-mères, mais pas forcément aller trop loin non plus. Et c'est là où c'est toute la difficulté de cet acte. Puis la deuxième expérience, c'est un jour où une future mère, qui avait 17 ans, et donc sa maman, doit obligatoirement être présente, parce qu'elle est mineure. Sa maman amène donc cette fille, et lui dit, voilà, et dit à la conseillère conjugale, voilà, on vient parce que, vous comprenez, ma fille vient avoir, est enceinte, avec un garçon, on ne sait pas trop s'il accepte ou pas, en tous les cas, on ne le voit plus depuis qu'elle... il sait qu'elle est enceinte, et vous comprenez, à 17 ans, c'est quand même tôt d'avoir un enfant, et il faut absolument qu'elle avorte, et puis vous comprenez, elle doit passer son bac, donc il ne faut pas qu'elle loupe son bac. À un moment donné, régulièrement, la conseillère conjugale essaye de poser la question à la fille. Et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Et d'un seul coup, c'est la mère qui répond sans avoir attendu la réponse de sa fille. Non, mais vous comprenez, c'est important, c'est capital. Moi, je voudrais pas qu'elle fasse la même bêtise que moi. Et la fille se retournait vers sa mère et lui dire « Merci, maman, ça signifie que je n'aurais pas existé. » C'est des situations très dures, très délicates, très pénibles à partager. Dans ces moments-là, il y a, dans ces moments-là, la souffrance de la vie. Les difficultés de la vie qui se représentent ici. Des choix difficiles, des choix pas simples. Des familles qui sont brisées, en questionnement, où ils doivent se reconstruire, où ils doivent reprendre une vie à peu près normale. Alors évidemment, il s'est passé autre chose avant. Évidemment, il y a la famille qui était là avant d'arriver devant un conseiller conjugal et familial pour un IVG. Je ne vais pas vous parler ce matin des IVG, si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je crois profondément ici que nous sommes, entre autres, face à ce que l'on appelle la cellule familiale, la cellule du foyer. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on ait eu ou qu'on n'ait plus d'enfants, qu'il s'est passé quelque chose dans la vie, l'histoire d'un foyer, l'histoire d'une situation qui a bouleversé les vies, très douloureuse. Que ce soit accidentel ou que ce soit face à une difficulté de la vie familiale, ça a été bousculé, il y a quelque chose qui s'est passé. On entend souvent dire « Ah, le Seigneur nous a donné des images parfaites de la famille chrétienne. » Une cellule d'un foyer extraordinaire. J'ai beau chercher dans la Bible la famille parfaite, je n'ai pas encore trouvé. Et c'est ça qui est quelque part extraordinaire. Et lorsque je commence à regarder les Écritures et les familles qui nous sont proposées, forcément, quelque part, on commence par Adam et Ève. Première cellule familiale, premier foyer, premier couple, première personne qui se retrouve ensemble pour vivre un amour extraordinaire et dont les deux enfants se sont entretués, dont un est mort et l'autre parti en exil. Abraham, qui est certainement une des cellules familiales les plus extraordinaires dans la Bible, il laisse deux fois sa femme entre les mains d'un étranger. Un enfant hors mariage, même si c'était de coutume à l'époque, et avec toutes les difficultés que l'on connaît par la suite. Je vous passe Lot, étant sauvé après Sodome et Gomorre, se retrouve quand même avec un enfant qui est maudit. Jacob, ou alors Jacob, cellule familiale par excellence, avec tous les éléments, on pourrait dire un cas d'école pour un conseiller conjugal et familial, parce qu'on a tout là. S'il faut étudier comment fonctionne quelqu'un, vous avez ici un homme avec deux femmes, deux servantes, pardon, qui, au fur et à mesure, ont des enfants. Non pas forcément par projet de vie, mais des enfants pour contrecarrer une femme vis-à-vis de l'autre. Waouh ! Ça, c'est de la relation. Caleb. Qui est certainement un des rares à avoir suivi, qui est positif dans la relation, qui a suivi sa fille, qui l'a aidé à trouver un mari, et on ne connaît pas plus de son foyer. Ça, c'est la respiration, la virgule où on respire. Vous savez, ah, il y a quelque chose quand même. Gédéon, alors Gédéon, on l'entend, on se souvient, vous savez, par la toison. Un jour elle est mouillée, l'autre jour elle est humide, et c'est le signe de Dieu, mais c'est extraordinaire. Un homme auquel il faut respecter sa relation avec Dieu, elle est vraie. Après ça se gâte. Gédéon a emmené son enfant. Alors la Bible ne nous précise pas l'âge, il parle d'enfant, à la guerre. Il bat les rois. Deux rois, Amalécite. C'est la victoire. Et il dit à son enfant, « Vas-y mon fils, tue les rois !» L'enfant refuse, pétrifié, normal. Il y a même un roi qui dit, « Alors, Gédéon, tu n'es plus capable de faire toi-même la besogne ?» Et puis, je vous passe la suite parce que ce n'est pas mieux pour Gédéon. Une petite virgule intéressante aussi, c'est Ruth. Ah, Ruth. Ruth, pour ceux qui étaient là l'année dernière, Daniel Latchman nous a présenté Ruth. Une personne extraordinaire dans sa relation. Dans sa relation familiale, dans sa relation avec l'autre. Le respect de l'autre. Le respect de sa belle-mère, elle qui est étrangère au peuple juif. Le respect du mariage. Ruth, une personne à lire et à relire. Je vais vous passer les choses, je voudrais juste aussi parler d'Élie. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, par Élie le prophète. Vous savez que ses enfants, méchants enfants, ont été rejetés par Dieu parce qu'ils volaient, ils détournaient, ils prenaient l'argent, ils prenaient la nourriture du sanctuaire. Enfin bref, là, l'orgie. C'est les grandes soirées et les orgies qu'ils pouvaient faire. Élie n'a pas su éduquer ses enfants et il prend à sa charge Samuel. Samuel va être un prophète extraordinaire. Samuel a entendu la voix de Dieu. Samuel a eu un acte une relation particulière. Samuel a eu deux enfants. Deux enfants qui ont été rejetés de Dieu. Parce qu'ils ont fait les mêmes bêtises que les enfants d'Élie. Je vous passe la vie de Saül, je vous passe la vie de David, et pourtant, il y en aurait des choses aussi à dire. Huit femmes, au moins, beaucoup d'enfants, peu qui sont restés en vie. C'est vrai que dans une famille, alors là on pourrait dire, c'est Dallas, hein, c'est... On pourrait dire, ouais, attends, moi je vais tuer mes frères parce qu'au moins je pourrais avoir le pouvoir. Et une ambiance délétère dans cette famille de David. David qui a mis un peu le feu aux poudres. David qui prend la femme d'Uri jusqu'à assassiner Uri. Il n'y a pas d'autre mot. J'imagine difficilement ses enfants dire « Papa, il est extra ». «
Ouais, papa !»
Quand ça s'est mis à jour, il faut vivre avec ça. Alors on arrive forcément à un moment donné au Nouveau Testament. Et on nous présente la famille de Jésus comme étant une famille exemplaire. Et Marie, et surtout Joseph, exemplaire. Recueillir Marie, alors qu'elle était enceinte, sans être mariée avec lui, c'est pas évident à l'époque. L'accueil, l'écoute. Il n'empêche que Jésus a quand même reçu quelques remarques de ses frères, en disant, mais attends, arrête, t'es pas le prof, t'es pas le Messie, qu'est-ce que tu fais là? T'es notre frère, grosso modo, t'es pas plus mieux que nous. On a ici dans la Bible des images de foyer qui marchent, qu'un cas, plus ou moins bien, avec l'envie d'avoir un projet de vie à deux. Ou à plusieurs. L'envie de vivre quelque chose pour Dieu, ensemble. L'envie de partager plusieurs décennies dans la société dans laquelle ils sont. Mais à chaque fois avec des hauts et des bas. Oui, en effet, dans la Bible, aucune famille n'est épargné. Aucune famille n'est épargnée par le mal, la colère, la haine, l'absence d'écoute, le désintéressement, le dégoût de l'autre. Des choses qui font qu'à un moment donné, dans le foyer, dans la famille, dans le couple, dans les cousins-cousines, on ne comprend plus les autres. On ne comprend plus pourquoi il réagit comme ça. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Alors en effet, il y a deux éléments peut-être à retirer ici. Les grands hommes et les grandes femmes de foi dans la Bible ne sont pas forcément des familles modèles. Et s'il est intéressant de voir que la Bible ne nous cache pas les défauts des uns et des autres, et des hommes de foi, il est aussi à noter qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans cette première règle, j'ai envie de dire, arrêtons de dire, ah, c'était quand même mieux de mon époque. C'était différent. Mais ce n'était pas forcément mieux. C'était pas forcément mieux du temps de Jésus. C'était pas forcément mieux du temps de David. C'était pas forcément mieux du temps d'Abraham. C'était pas forcément mieux du temps d'Adam et Ève. Bref, aujourd'hui, maintenant, dans les relations que je vis, la question est comment je les vis. Et le deuxième élément frappant qui peut sortir de là, c'est que les familles positives ou qui se rejoignent le mieux, comme celle de Ruth, Naomi, Job, Caleb, Philippe, j'en ai pas parlé, mais on pourrait en parler. Il n'y a pas de famille idéale, mais il y a un élément auquel ils se retrouvent, tous ces gens, c'est qu'ils ont essayé de suivre au mieux les normes que Dieu a données. Et les normes que Dieu a données, eh bien, forcément, on pourrait se poser la question, quelles sont-ils ? Lorsque je reprends le texte qui nous a été lu dans Matthieu, au chapitre 19, nous nous trouvons face à un jeune, mais super bien. Pas parce qu'il est riche, hein, pas uniquement. Non, c'est pas mon problème, ça. Il est super bien parce qu'il a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Donc il est bien, ce jeune. Il est génial. Et c'est ce que Jésus essaye de voir avec lui. Mais il est génial à quel niveau ? Il est génial, premièrement, parce qu'il a rappelé deux normes fondamentales de la relation les uns avec les autres. Matthieu chapitre 19, verset 18. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme dit tout cela, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore ? Dans d'autres textes, il est rajouté un deuxième élément, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Deux normes ici qui sont fondamentales dans cette relation, à tout niveau, pas uniquement quand on est chrétien et qu'on se tourne vers l'extérieur, bien aussi quand on est en foyer. Et puis le troisième élément qui apparaît, qui n'était pas dans la relation particulière, mais que le jeune ici souhaite Jésus souhaite particulièrement mettre, il dit, si tu veux être parfait, va, vends tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors il n'est pas question ici de l'argent, où il faut être pauvre. Non, ce n'est pas la question de Jésus ici. La question de Jésus est, qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin ? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant ? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de faire un pas supplémentaire vers celui ou celle qui est dans ton foyer ? Quel pas supplémentaire te permet, en tant que foyer, d'aller vers les autres ? N'oubliez pas, la réponse du jeune homme, c'est les lois qui se trouvent concernées et tourné vers l'extérieur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers l'autre pour aimer comme moi ? Et cette question ici et cette remarque ici est fondamentale dans cette relation avec Jésus. Jésus nous donne le résumé, pour ma part, de ce qui est du foyer tourné vers l'extérieur. Ça, c'est sur le papier, hein. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est la norme. Ça, c'est pas... Et ça se fait. Non. Ça se vit. Ça se vit plus ou moins bien parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a d'abord nous, est-ce qu'on souhaite ou pas se détacher de ce qui nous empêche d'avancer? Et puis il y a l'autre devant, est-ce qu'il est prêt à accueillir, est-ce qu'il est prêt à recevoir cette relation? Est-ce qu'il est prêt à entendre ce que je voudrais partager avec lui? Ma foi, ma relation avec Dieu, mon amour que j'ai pour lui, le respect que j'ai pour lui, l'aide que je peux apporter pour lui. Et s'il refuse? Ah, ben voilà. Ce n'est pas parce qu'il refuse que c'est forcément un échec. Le fait de proposer, selon l'expression, la balle est dans ton camp. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de jouer, hein. Ça veut dire que, voilà, on avance petit à petit. J'aime beaucoup l'image de la tradition juive par rapport à Sarah et à la tante de Sarah. Il y a une tradition qui veut que la tante de Sarah avait les quatre côtés ouverts de sa tante. Sous-entendu, dans l'esprit d'Abraham et de Sarah, on est ouvert aux autres. Ça ne se passe pas forcément bien, les relations sont dures, les choix sont difficiles, n'oublions pas. Abraham a quand même donné sa femme deux fois à un autre. Ok, et alors? C'est la fin? Non! Ce n'est pas la fin. L'erreur ne met pas à bas la vie ou la relation que je peux avoir avec mon épouse, dans le cas d'Abraham, ou avec les autres. Dieu dit « va ». Dieu n'a pas dit « ça y est Abraham, après deux fois c'est bon, dégage, c'est bien, c'est fini. Basta ». Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit « ok, tu as reconnu, c'est bien, maintenant avance ». Et il y a un élément extraordinaire avec Abraham et Sarah. Cette image des quatre côtés de la tente ouverte pour cette idée d'être ouvert aux autres. Et cette image est confirmée par le texte que nous avons de l'expérience dans Genèse, au chapitre 18, d'Abraham qui accueille des étrangers, trois étrangers. Des gens qui arrivent, et au chapitre 18, au chêne de Mamré, au moment où il fait le plus chaud, il lève les yeux, il voit donc ces trois hommes, trois étrangers, qui étaient debout à côté de lui. Et il se précipite vers eux et pour leur proposer d'entrer dans sa tente. C'est extraordinaire ce côté accueillant, ouvert. Cet homme qui, dans son foyer, souhaite particulièrement partager ses biens. Cet homme qui n'hésite pas à faire rentrer des étrangers chez lui. C'est quelque chose qui est toujours présent dans notre vie. Vous entendez souvent parler des réseaux sociaux. On n'a plus de contact visuel. Mais le contact est obligatoire. On a besoin de contact. On a besoin de parler, de discuter, de partager. On a besoin d'exprimer ce que nous vivons. On a besoin, ce souci, d'aider l'autre dans ce domaine. Et le texte nous dit, verset 3, alors le Seigneur dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie. » Pardon, et il dit, ça c'est Abraham, « Le Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. J'aime beaucoup ce côté accueil d'Abraham. Et vous soulignez les mots qui sont utilisés ici. Je vais vous préparer un repas pour fortifier votre cœur. Là, dans le texte, Abraham reste ici avec des étrangers. Il verra plus tard après qu'il a parlé avec le Seigneur. Pour fortifier votre cœur. Abraham, l'homme qui, dans son foyer, accueille les gens pour fortifier les cœurs des autres. Abraham accueille parce que son souci premier n'est pas la critique sur les autres, n'est pas la colère sur les autres, n'est pas la haine sur les autres, mais l'accueil des autres pour fortifier leur cœur. Abraham a le souci de soulager ces personnes. Et quand on continue ici, il y a donc la préparation. Sarah est mise d'ailleurs à contribution. Alors soyons clairs, la Bible nous dit que c'est Sarah qui a préparé. Il y a des serviteurs et des servantes partout, donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément eux qui l'ont fait des propres mains. Mais en tous les cas, la Bible le sous-entend. Ce côté où, en tous les cas, chacun dans son foyer met la main à la pâte, sans jeu de mots. Et là, il y a aussi ici de la part d'Abraham, dans cet épisode, je saute très vite les versets, et j'arrive au moment où il y a la séparation. Après avoir réconforté les cœurs, chacun va vaquer à ses occupations. Les trois étrangers sont prêts à partir, et c'est là qu'il va découvrir qu'un des étrangers est le Seigneur Dieu, et que commence ce fameux dialogue sur la destruction de Sodome et Gomorre. Juste après un épisode où Sarah rit parce qu'on lui annonce qu'elle allait avoir un enfant. Épisode intéressant aussi en termes de foyer, de relation, de compréhension de la vie, de savoir pourquoi là maintenant, est-ce possible, moi à mon âge. Et après ce premier rire de Sarah, voilà donc ce dialogue qu'il y a entre Abraham et Dieu. Et je prendrai simplement le premier long discours qu'il y a eu. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Vous vous souvenez, c'est ce texte où il y a ce fameux marchandage. Je le mets juste là pour parler de cet Abraham qui est un Abraham ouvert et soucieux des autres. Et ça, c'est un des éléments, je crois, fondamental dans nos foyers. Quand je parle foyer, je ne parle pas foyer avec enfants ou quoi que ce soit. Foyer, c'est une maison, foyer, c'est le foyer où on faisait la cuisine. Voilà pourquoi ça s'appelle un foyer, le foyer de feu, etc. Ça concerne tous, nous tous. Un des éléments de ce foyer, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et c'est très intéressant parce que aider les autres nous empêche parfois de se critiquer mutuellement. Si vous regardez, les grands hommes de foi qui ont trébuché ont commencé à aller mieux à partir du moment où ils ont commencé à s'intéresser aux autres. À s'intéresser au peuple, à s'intéresser à des personnes. Je ne suis pas sûr que Joseph aurait réussi à pardonner à tous ses frères et sœurs s'il n'avait pas pris le soin de se tourner vers les Égyptiens pour les aider. C'était un souhait de Dieu. Il a dit oui. Il a dit banco. Je vais être les aides des Égyptiens. En faisant cet acte, il oublie tout le malheur qu'il a pu avoir avec sa famille. Il est actif vis-à-vis des autres. Ça ne guérit pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans un foyer. Mais ça contribue à se reconstruire. Un foyer est avant tout le lieu où on se réchauffe et où les autres peuvent se réchauffer. Et c'est au travers de cette image-là que j'aimerais terminer. Dieu a donné des lois à l'homme pour l'aider à vivre dans la justice. Il a donné aussi le salut par Jésus-Christ, la possibilité de recevoir un cœur nouveau, une vie nouvelle, oubliant ce qui est en arrière et se porte vers ce qui est en avant. Les lois divines, comme l'enseignent les Écritures, continuent de nous guider pour vivre dans la justice. Non pas pour se ressasser du passé négatif que j'ai pu avoir par mes choix ou par mes décisions, mais bien pour me porter vers devant. Alors à tous, j'aimerais vous dire, le Seigneur nous invite à vivre particulièrement cette action de se tourner vers les autres. Et à tous les jeunes qui finissent parfois par se dire que quand on voit les mariages, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est tellement compliqué. Oui, c'est vrai, ça peut être compliqué. Parfois, on a rajouté une couche pour que ce soit encore plus compliqué, d'ailleurs. Histoire de, je ne sais pas, à un moment donné, se faire encore plus de mal. Allez, je vais en rajouter une. Pourtant, dans la vie et dans la société d'aujourd'hui et d'avant-hier, c'est la même chose. Il y a les mêmes difficultés. Il y a les mêmes besoins de faire ses propres choix. Le même besoin de se dire, voilà, aujourd'hui, je décide d'avoir un projet de vie avec quelqu'un. Il sera ce qu'il sera. Mais ensemble, on peut avoir un projet super et extraordinaire. Ça ne veut pas dire que j'aurai toujours les bons choix, mais ensemble, nous avancerons. Et c'est ce que le Seigneur ici nous dit. Ne cherche pas à voir la perfection, tu ne l'auras jamais. Cherche à vivre au jour le jour, construis avec le moment où tu es. Choisis et fais les bons choix maintenant. Ne regarde pas aux autres et ne regarde pas en arrière, mais va de l'avant avec la parole de Dieu et en toutes choses. Cet après-midi, nous essaierons de continuer sur cette question et ce partage de l'ouverture vers l'extérieur en tant que foyer. Mais c'est en tous les cas toute ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.